Alors, le deuxième sous-thème dont je me suis dit que nous ne pouvons pas ne pas aborder, c'est celui intitulé « Échec et pauvreté de la richesse ». Échec et pauvreté de la richesse. Alors, est-ce que quelqu'un peut se tenir gaillardement debout, nous lire à haute et intelligible voix, Luc, le chapitre 12, versets 16 à 21. Luc, le chapitre 12, versets 16 à 21. Oui. Amen. N'est-ce pas là l'échec du rêve américain? Quand il ne prend pas en compte la foi, quand il ne prend pas en compte Dieu, le rêve de la, le rêve américain qui est un concept formidable en soi. C'est la réussite sociale et l'égalité des chances pour tous. Pour ceux qui ont une fausse conception de la prospérité biblique, comme pour ceux qui croient devoir courir derrière l'argent pour leur sécurité, la parabole du riche insensé est une véritable instruction. Le diagnostic précis et prophétique que Jésus fait de cette parabole est implacable dans son honnêteté et révélateur dans sa perspicacité. Voyons voir que pouvons-nous retenir de cette parabole par rapport au thème qui est le nôtre, sans chercher à faire des interprétations élitistes, théologiques, académiques. Non, au plus bas, simplement, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette parabole? Premièrement, la parabole nous présente sans fioriture aucune un bonhomme qui se croyait être sage, mais qui était plutôt insensé. Cela me rappelle une injure que nous avions coutume de nous jeter à la face quand on était à l'école primaire. C'était dans les années 70. On aimait s'insulter comme ça, imbécile heureux. Imbécile heureux. Et il me semble que nous avons affaire à un imbécile heureux ici. Sans doute que cet homme-là était envié des autres. manifestement, il est prospère socialement parlant, économiquement parlant. Voilà quelqu'un qui a réussi. Et qui a réussi même, et dont la réussite va au-delà de ses espérances. Mais aux yeux de Dieu, il était un insensé. Il faisait pitié à Dieu. Dieu avait pitié de lui. Insensé. Le terme insensé, dans le langage biblique de façon générale, ne fait pas référence aux capacités mentales, mais plutôt au discernement spirituel. Dans l'Ancien Testament en particulier, les Psaumes et les Proverbes, un insensé ou un fou est un individu irréfléchi qui prend des décisions comme si Dieu n'existait pas et qui vit comme si Dieu n'avait pas parlé. C'est celui-là qui est appelé insensé, un irréfléchi. Et dans cette parabole, à 11 reprises, nous entendons le riche déclarer « moi, je, moi, ma, mais ». Dans tout ce qu'il fait ou qu'il dit, ou qu'il entreprend, Dieu n'existe pas. Dieu n'a pas parlé. Il cherche à assurer son avenir en amassant beaucoup de biens et sans prendre en compte ni Dieu ni son entourage. Pourquoi, d'après Jésus, cet homme est-il insensé? C'est par le fait qu'il pense que seule l'abondance de biens matériels est à la source du bonheur de l'homme. Mais Jésus ne perçoit que l'égoïsme dans le cœur de ce riche, l'avarisme. Et c'est pourquoi il l'appelle insensé. Insensé. C'est là une caractéristique de l'homme avare. Il désire la prospérité pour lui-même, pour sa propre satisfaction. Il a de l'argent, mais il refuse de le dépenser pour les autres quand le besoin se fait sentir. C'est l'échec de la richesse. C'est la pauvreté de la richesse. Deuxièmement, de prime abord, en ne cherchant pas forcément en profondeur, cet homme se croyait maître, mais il n'était qu'un pitoyable esclave. Cet homme riche était convaincu d'avoir la maîtrise de la vie et que ses richesses en étaient le moyen. Mais la parole de Dieu est claire et montre qu'il n'avait aucun pouvoir sur son existence. Cette nuit même-là, ton âme te sera redemandée. Le mot « redemander » est très instructif. C'est un terme commercial à l'époque utilisé pour un emprunt. Et à ce point crucial de la vie, de sa vie, cet homme va découvrir une vérité, la vérité que toute personne apprend tôt ou tard dans sa vie. C'est-à-dire que c'est à Dieu qu'appartient la vie. Il nous l'offre pour qu'on y investisse et lui-même, il nous offre comme un investissement. Non seulement il nous l'offre pour qu'on y investisse, Mais lui-même, il nous l'offre comme un investissement. Et au moment venu, il réclame son dû. Je reprends ma chose. Il nous l'a offert, cette vie, sous forme de prêt sur cette terre, et il est en mesure de réclamer son prêt à tout moment, le plus souverainement et naturellement possible. L'insensé n'avait donc plus de pouvoir quant à son avenir. Et ce que tu as préparé là, pour qui cela sera-t-il? Moi, je reprends ma chose. Ce que tu as préparé sera pour qui? C'est encore là l'échec de la richesse. C'est aussi là la pauvreté de la richesse. Troisièmement, et nous nous en limiterons là pour le sujet qui nous intéresse, il se croyait riche, mais il était pauvre. Avec toute la récolte qu'il a faite, tout le bien qu'il a, il était désespérément pauvre. En un instant, ce riche fermier réalisa qu'il avait travaillé si durement pour ne pas en jouir. Il avait investi dans le temporel, non dans ce qui est permanent ou éternel. Ce qui rend la mort cruelle, les amis, c'est de réaliser que tout ce que nous perdons en quittant cette terre, tout ce que nous avons en quittant cette terre, nous ne pourrons même pas les contempler de loin désormais. C'est fini. Et parfois, dans mes réflexions personnelles, je dis que c'est ça aussi ce qui fait la dimension de notre Dieu, la grandeur de notre Dieu. Et je lui ai dit comme ça un jour, je dis, je comprends pourquoi tu es patient. C'est à cause de cet amour-là. Nous ne savons pas, mais toi, tu sais qu'il est en train de crier « waouh, 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 waouh » comme ça, là. C'est fouille. Mais il ne sait pas. Et tout ce que lui, Dieu, il fait, c'est de t'amener à en prendre conscience. Tu dis que c'est zéro. Tu ne comprends pas. C'est ce que je cherche à te faire comprendre. C'est zéro. Et Dieu est capable de cette patience. C'est ce qui fait sa gloire. C'est ce qui fait sa légitimité. Il est Dieu. Ce riche laissa tout derrière lui. Les tout neufs greniers qu'il a construits, remplis à ras-bord, tout le personnel qu'il a engagé, j'imagine tout le luxe qu'il s'est préparé, toute sa notoriété, la mort lui ôta tout et le laissa nu comme verre. Et voilà encore l'échec de la richesse. La richesse ne pouvait rien. Qu'est-ce que la richesse peut revendiquer? Voilà encore aussi la pauvreté de la richesse. Job nous l'a appris. Nu je suis sorti du sein de ma mère et nu j'y retournerai. En voilà un sage. Dites-moi, les amis, êtes-vous insensés aux yeux de Dieu? Êtes-vous en train de vous destiner à être rien moins qu'un insensé aux yeux de Dieu? Et être ainsi victime de l'échec de la richesse et être aussi victime de la pauvreté de la richesse. Passons à un second texte. Apocalypse, le verset 3, versets 14 à 19, est également un autre texte qui démontre l'échec de la richesse et la pauvreté de la richesse. La pensée de la prospérité financière, ainsi que la mentalité qui lui est associée, s'accorde pleinement avec l'état d'esprit de la riche église autosuffisante de Laodicée. Parce que c'est de cette église qu'il s'agit. Une église dans laquelle le dieu Mammon s'était installé confortablement. De toutes les sept églises de l'Apocalypse, celle de Laodicée, la dernière à être mentionnée, est, selon certains commentateurs, celle qui décrit le mieux l'église d'aujourd'hui, celle de la fin des temps. Ma question est, est-ce qu'il en est ainsi de mon église locale? Et s'il en est de mon église locale, c'est qu'il en est aussi de moi. Car tel je suis, telle est mon église. Une multitude de ces églises contemporaines se vantant sans cesse de leur richesse, de leur prospérité, de leur grandeur, de leur succès mondial. Les Laodiciens, eux aussi, étaient comblés de richesses et pensaient fermement que cela était un fruit de l'approbation de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus leur montra l'échec de la richesse qui était la leur, jusqu'à ce que Jésus leur montra la pauvreté de la richesse qui était la leur. Lisons Apocalypse chapitre 3, donc, versets 14 à 19. Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 19. Oui, quelqu'un peut lire? L'attitude si orgueilleuse de l'Église, ainsi décrite dans la lecture qui vient de nous être faite, être forcément aussi celle des chrétiens de cette église. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Tel je suis, telle est mon église. Donc cette attitude, être celle de cette église, tout comme cette église a décidé d'être comme la ville de Laodicée est, des caractéristiques emboîtées ou emboîtantes. Une ville prospère grâce à son commerce et à ses industries. C'est une ville des banquiers. Et l'historien romain Tacite a dit de cette ville, « Laodicée se révéla des ruines du tremblement de terre qui l'avait frappé par ses propres ressources sans l'aide de Rome. » Voici une ville qui a subi un tremblement de terre et n'avait pas besoin de l'assistance de l'empereur à l'époque pour se reconstruire. Elle en avait les moyens. Elle a pu se reconstruire. De sorte que la fière assertion par ses propres forces se trouve plusieurs fois gravée sur les édifices construits. Par ses propres forces. Tout ce qu'ils ont rebâti, les grands édifices, portaient cette inscription. Par nos propres forces. Cette même autosuffisance se reflète dans la phrase que le Seigneur met dans la bouche de l'Église. « Je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. » Je n'ai besoin de rien. En d'autres termes, ces chrétiens trouvaient satisfaction dans leur richesse. Comme l'était la société au sein de laquelle elles étaient. Et pourtant, remarquez ce que les yeux purs de l'Éternel voyaient. Il dit, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Les amis, Dieu est en train de dire à cette église, « Tu dis que tu es riche, mais tu es malheureux. Tu dis que tu es riche, mais tu es misérable. Tu dis que tu es riche, mais tu es pauvre. Tu dis que tu es riche, mais tu es aveugle. Tu dis que tu es riche, mais tu es toute nue. Tu n'as même pas de quoi te vêtir. Tu dis que tu es riche. » N'est-ce pas précisément là l'échec de la richesse? N'est-ce pas précisément là la pauvreté de la richesse? L'esprit de mammon et de cupidité et de cupidité de la ville de Laodicée avait déteint sur l'église de Laodicée de façon désastreuse. Un esprit d'autosuffisance qui débouchait sur un aveuglement plutôt obscurantiste quant à leur lamentable situation et surtout leur niveau moral et spirituel. Quelqu'un a fait observer le rapprochement de cet état d'esprit avec celui de la culture américaine qui prône l'abondance, en particulier avec les tenants de la prospérité évangélique qui est prêché intensément. Désolé de parler souvent de l'Amérique, mais comme vous êtes à côté. Eux aussi c'est-à-dire les prêcheurs, leurs tenants et leurs adeptes, s'illusionnent sur leur propre sort, ignorant leur véritable condition devant Dieu. À cause de la multitude des suiveurs, à cause de la multitude des adeptes, aveuglés par l'orgueil, à cause de toute cette multitude mue par la cupidité, ce mouvement croit vivre un véritable réveil spirituel. Ce mouvement est riche, influent et puissant, alors qu'en réalité, il est pauvre, misérable et malheureux aux yeux de Dieu. En tout cas, Porfirio Diaz, ce révolutionnaire mexicain du 19e siècle, n'avait-il pas raison de plaindre son pays en ces termes, pauvre Mexique, si loin de Dieu, si près des États-Unis. Qu'en disent les Canadiens? L'histoire de l'église de Laodicée est l'une des plus passionnantes à lire, car elle dévoile la sévérité de Christ et à l'égard de Mammon, le dieu de l'argent, qui l'avait entièrement séduite et aveuglée. Après un examen sans complaisance de sa condition spirituelle, le Seigneur, en tant que témoin fidèle et véritable, ne lui adresse aucune parole d'approbation, aucune parole d'approbation, contrairement aux autres églises. Aucune parole d'approbation, ni même d'encouragement, contrairement aux autres. Au contraire, il n'y a eu qu'avertissement et sérieuse exhortation au relèvement. L'église de Laodicée est une église devenue tiède parce qu'elle est dans la compromission. Prenez quelques riches que vous pouvez trouver. Quel que puisse être leur statut à l'église. Vous prenez quelques églises que ce soit, assez riches et suffisamment riches, il y aura une compromission quelque part. Vous trouverez des compromissions. Insoupçonnées alors. Parce que c'est ça. C'est la caractéristique de l'esclave de Mammon. C'est la caractéristique de l'esclave du dieu argent. Quand tu es esclave du dieu Mammon, il y a toujours rien à faire. La compromission. Tu peux papatouiller jusqu'à... Mais il y a compromission. Nous, on ne va pas voir ici. Mais lui là, il voit. Nous, on peut même t'aduler. Mais lui, là, il voit. Tu vas faire comment? Le désir du Seigneur était que l'Église soit froide ou bouillante. À l'époque, les eaux chaudes étaient utilisées pour la guérison, pour guérir un certain nombre de maladies, tandis que les eaux froides dans ces régions chaudes étaient pour un rafraîchissement vivifiant indispensable, qui plus est. Mais l'eau tiède, par contre, très désagréable au goût, ne servait à rien, sinon à provoquer des vomissements. Et c'est ce que Laodicée est. avec toutes ses richesses. Celle qui n'a besoin de rien là, elle ne peut que faire vomir les gens. Devenue tiède, l'église de Laodicée rebutait par son manque de saveur. Les chrétiens ne prenant point de position pour la vérité. Il n'y avait rien de plus écœurant qu'un croyant faisant toutes sortes de compromissions mondaines, craintifs dans le témoignage et dont le cœur n'appartient pas en entier au Seigneur parce que le Dieu Mammon y a pris presque toute la place. Paul pouvait dire aux Corinthiens que ce n'est pas que par la richesse qu'ils peuvent enrichir les autres. Il le dit en 2 Corinthiens, le chapitre 6, verset 10, « Comme attristé, revendique-t-il, et pourtant nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et pourtant nous enrichissons beaucoup. Comme n'ayant rien, alors que nous avons tout. » On n'enrichit pas que par la richesse, en tout cas matérielle, dont nous pouvons disposer. L'argent n'est que la fausse monnaie du bonheur. Martel Jure de Goncourt, c'est l'écrivain français à l'origine de l'Académie Goncourt qui discerne encore les prix Goncourt aujourd'hui. C'est lui qui parle comme ça. L'argent fait le bonheur? S'est interrogé un auteur anonyme avant d'y répondre lui-même, ce sont les pauvres qui font courir cette rumeur. Les riches eux-mêmes savent bien ce qu'il s'en est. Les meilleures choses de la vie sont gratuites, enchaîne un autre. Ce sont entre autres les câlins, les sourires, les amis, la famille, le rire, l'amour. Et les beaux souvenirs. La vraie richesse, nous dit quelqu'un, c'est ce qui te reste quand tu as perdu tout ton argent. C'est pas l'argent lui-même. Ce n'est pas le matériel lui-même. Et le Dalai Lama n'a-t-il pas raison de faire cette observation, je le cite, « L'argent et la richesse sont des sources partielles du bonheur et non le bonheur en tant que tel. Le bonheur doit se développer en nous. Personne ne peut nous le donner. Il prend sa source dans la tranquillité et la paix de l'esprit et ne dépend pas des facteurs extérieurs pour le réconfort matériel, pour une bonne éducation ou une réussite sociale. Vous voyez bien que c'est justement ce dont Jésus nous comble. Et il fait encore cette pertinente observation. Ce qui me surprend le plus chez l'occidental, c'est qu'il prend la santé pour gagner de l'argent et il prend ensuite son argent pour récupérer la santé. À force de penser au futur, il ne vit pas au présent. Et il ne vit donc ni le présent ni le futur. Il vit comme s'il ne devait jamais vivre, comme s'il ne devait jamais mourir. Et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. C'est sévère, hein? L'échec de la richesse se démontre aussi lorsque l'on voit que le profit exagéré au détriment d'autrui, apporte tôt ou tard de douloureux retournements de situation. Mais il n'y a pas de riches sans pauvres. Ce que le riche a, c'est du pauvre qu'il a pris. Parfois avec raison, mais souvent malhonnêtement. Ce sont les plus riches à qui il manque le plus de choses, dit un proverbe chinois. On peut avoir de l'argent, on peut avoir des yachts, on peut avoir des yachts, on peut avoir des avions privés, on peut frimer, on peut s'éclater. Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne peut pas acheter, c'est la joie de vivre. La joie de vivre n'est pas à la portée de l'argent. L'argent est évidemment nécessaire, mais conseille Michael, un philosophe et pédagogue bulgare, l'argent est évidemment nécessaire, mais du moment que vous avez suffisamment de quoi vivre, il est préférable qu'il reste pour vous une préoccupation très secondaire. Sinon, vous serez obligé de lui sacrifier tout ce que vous avez de meilleur en vous. Voyez-vous, aucune somme d'argent ne vous rendra heureux si vous n'êtes pas heureux vous-même. Et dans le Christ, pour nous qui sommes des chrétiens, si déjà tu n'es pas heureux, si déjà tu ne te sens pas en sécurité, ce n'est pas l'argent là qui va t'apporter mieux. Et nous terminons avec celui que vous connaissez très bien, Rockefeller. Tout milliardaire qu'il a été pouvait dire, je cite, « Je ne connais rien de plus misérable, de plus méprisable et de plus pathétique qu'un homme qui consacre toutes les heures de sa journée à faire de l'argent pour de l'argent. » Que le Seigneur nous bénisse.